je crois que le grand public, et même dans une très large mesure l'érudition, confond en ce qui concerne l'Afrique noire tout ce qui est magique et tout ce qui est religieux.
De l'Afrique noire avant même... De l'Afrique noire avant même l'invention du Musée de l'Homme, il sera question dans la marche de l'histoire. Mais je suis en duo aujourd'hui avec Mathieu Vidard, bonjour.
Bonjour Jean.
Qui, dans La tête au carré, nous parlera longuement de la renaissance et de la réinvention de ce musée qui concerne, bien au-delà de l'Afrique, tout l'homme.
Et c'est un nouveau voyage, effectivement, Jean, aux origines de l'homme, mais aussi une réflexion sur le sort de l'humanité, son évolution. C'est le nouveau récit, la nouvelle histoire que propose de nous raconter le Musée de l'Homme. Alors d'abord, ce qui frappe, c'est ce lieu où nous nous trouvons, c'est la beauté époustouflante de ce paquebot qui est là, flanqué au Trocadéro et qui domine cette place magnifique. On est happé par les baies vitrées et puis fini les parquets des Katis, les vitrines poussiéreuses où s'entassaient les crânes, les momies et les silex, même si on retrouve toujours quand même avec beaucoup de plaisir la façade années 30. Après, 6 années de travaux, place donc à la lumière, aux présentations claires, aux nouvelles technologies pour explorer notre histoire commune avec donc ces trois questions qui ont agité l'esprit des premiers hommes et qui sont d'ailleurs toujours au cœur de nos réflexions. Où sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? 700 000 objets de préhistoire, 30 000 spécimens, 6 000 objets qui illustrent l'appropriation de la nature par les sociétés humaines. Et puis un musée, c'est d'abord un lieu où on raconte une histoire au public. Et cette histoire, elle est toute simple, c'est la nature de l'homme et l'homme au cœur de cette nature. C'est un lien tout simple, biologique, culturel et social, pour raconter donc cette histoire, avec toutes les disciplines scientifiques qui se sont réunies ensemble pour cogiter et imaginez ce musée laboratoire du 21e siècle. Alors, ce qui retient l'attention, hein, Jean, en se baladant, il y a différentes parties, évidemment, il y a trois parcours. C'est cette envolée de bustes magnifiques qui comporte 90 moulages. Sophie Bécherel en parlait tout à l'heure, des moulages d'autochtones vivant en Amérique, en Afrique, en Asie. Il y a bien sûr les joyaux de la couronne. Alors là, on est face à Cro-Magnon et à Néandertal, avec ces pièces qui nous permettent d'être confrontés, finalement, à nos ancêtres, qui nous interpellent. C'est quasiment une méditation qu'on ressent en se posant des questions par rapport à ces hommes qui vivaient là il y a des centaines de siècles. Autre joyau, c'est cette petite sculpture magnifique qui date de 18 000 ans, époque de Lascaux. C'est dans un bloc de pierre et on voit cette silhouette de femme. C'est brut, c'est magnifique, c'est tout simple, c'est absolument extraordinaire. Et puis, ce lieu, Jean, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, c'est un musée, mais c'est aussi, surtout, un lieu de recherche où travaillent des hommes et des femmes pour faire avancer la connaissance scientifique. C'est là qu'ils apportent, justement, les dernières nouvelles de la science. Ils sont ici, au sein du musée, ils sont plus de 150 à travailler. Alors, dans quelques instants, juste après la marche de l'histoire, dans La tête au carré, on accueillera Evelyne Heyer, qui est biologiste et professeure en anthropologie génétique. On va voir avec elle la façon, justement, dont la génétique a totalement bouleversé le rapport à la paléontologie. Agnès Parent, qui est responsable du projet d'exposition du Musée de l'Homme, là, pour parler de la science du musée. Comment on imagine, justement, un musée tel que celui-ci? Et puis Alain Froment, qui est médecin anthropologue et responsable des collections d'anthropologie. Voilà. Et on sera aussi avec le public, s'il souhaite venir nous accompagner à partir de 14h.
Mais bien sûr! Mais moi, je me sens tout d'un coup avec le projet de la marche de l'histoire, de remonter jusqu'à la source, de remonter la pente de cette colline sacrée pour l'anthropologie qu'il était déjà, avant que le Musée de l'Homme, première version, 37-38, n'existe. Cette colline sacrée, tous les anthropologues, tous les chercheurs y ont accès, quelle que soit leur origine. Venu du CNRS, voici Éric Joly, bonjour.
Bonjour.
Il y a aussi un directeur au muséum, il s'occupe du jardin des plantes, qui s'appelle Éric Joly. Vous êtes anthropologue depuis avant votre naissance. Et avant le Musée de l'Homme, vous vous souvenez? C'est tout simple, vous calculez en centaines d'années. Il y avait le musée d'ethnographie du Trocadéro, issu de l'exposition universelle. Je remonte à une date très lointaine, 1878.
Oui, c'est effectivement l'ancêtre du Musée de l'Homme. C'est un musée très ancien. Pour faire le lien avec ce qui va suivre, c'est un musée qui, au début du XXe siècle, commence à devenir assez poussiéreux, c'est-à-dire que les objets qui viennent de des pays exotiques, comme on disait à l'époque, sont entassés un peu en vrac. Ça devient un bric-à-brac invraisemblable, qui a son charme. Hein. Picasso va visiter le musée d'ethnographie dans les années 20 et trouve un certain charme à ce bric-à-brac. Mais l'idée, en fait, c'est d'exposer des panoplies d'objets avec une volonté esthétisante. Ce musée, à l'époque, relève des beaux-arts, et ce n'est qu'au moment où Georges-Henri Rivière, en 28, est nommé à la chaire d'anthropologie du muséum, qu'il va rattacher, en fait, le musée d'ethnographie au muséum.
Attendez, il y a Joly et Joly, il y a Rivet et Rivière. N'est-ce pas Paul Rivet qui plutôt a arraché le musée?
C'est exactement.
À la tutelle des Beaux-Arts.
Voilà, là, je commence à me tromper. Heureusement que vous êtes.
Mais qu'est-ce que c'est notre sujet, demandent les auditeurs? Eh bien, c'est l'entre-deux entre la fin du musée d'ethnographie du Palais du Trocadéro et le musée de l'homme que porte dans son cerveau fertile Paul Rivet. Il a imaginé une sorte de préfiguration, une annexe déambulatoire. Notre sujet, c'est l'expédition Dakar, Djibouti, 31, 33, 20 000 kilomètres à travers l'Afrique d'ouest en est. Et avec votre collègue Marianne Lemaire, vous publiez tous les textes relatifs à la préparation et à la réalisation de cette expédition. Alors, je montre le volume. J'ai vu que les auditeurs sont très disposés à applaudir. Ils vont applaudir rien qu'à voir l'effort qu'ont fourni les auteurs et les éditions des cahiers. Vous avez vu, il y a toute l'équipe de Radio France qui est là derrière. Vous avez été accueillis, vous avez monté les escaliers avec des hôtesses de part et d'autre. Il faut que je cite les noms de Sandrine Bréchaud, Alex Jams, Yvan Turc, Alain Pied, Marc Garvanès. Ce matin, parce que Patrick Cohen était ici, il y avait Floriane Le Goff, d'autres encore qui me pardonneront de ne pas les nommer. C'est presque autant de monde que Dakar, Djibouti.
Bon,
Dakar, Djibouti, ils sont parcours, maison de la radio.
Ils sont un peu moins. Ils sont 11.
Ils sont moins. Bon, d'accord. Et avec un grand chef qui est Marcel Griol, avec Michel Léris qui a tenu le journal de l'expédition, l'Afrique fantôme, texte bien connu. Et puis alors des individus inattendus. Je ne sais pas si on a les mêmes dans les équipes de Radio France. Il y a un prince russe blanc.
Oui, Michel Uktomsky, dont on sait d'ailleurs peu de choses, hein, puisqu'il va disparaître très 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 vite. Il est probablement lié au cercle mondain de Georges-Henri Rivière. Cette fois, je me trompe pas. Et il va participer au début de Dakar Djibouti, mais il tombe très vite malade. Et en fait, il est rapatrié, sans qu'on sache d'ailleurs très bien quelle était sa tâche, quelle était son activité.
Et le chef scout d'Épernel, à quoi servait-il?
Oui, à Belfèvre, en fait, il arrive en Éthiopie parce qu'effectivement, il manque un naturaliste dans l'expédition. L'expédition se veut une expédition pluridisciplinaire, hein, qui couvre tous les domaines. Et donc, lui a fait ses études au muséum et il est chargé notamment de l'ethnozoologie, de préparer les animaux, de faire de la taxidermie.
Mais toutes les techniques sont représentées.
Sont représentées, linguistiques.
C'est comme chez nous. On a besoin de soutien, de financement, nous aussi, on vous le répète. L'expédition Dakar-Djibouti a été l'objet de débats dans les deux chambres du Parlement. Vous citiez Georges-Henri Rivière, il n'avait pas son pareil pour mobiliser les milieux mondains, le vicomte de Noailles, le galeriste Wildenstein, le fameux Raymond Roussel. Et alors, il a monté un truc que je recommande aux autorités de Radio France, un gala de boxe avec un poids-plume charmant qui s'appelait Albron, qui plus tard sera l'amant de Jean Cocteau. C'est au Veldiv et ça rapportera beaucoup d'argent.
Monsieur, dame, après ce petit numéro music hall, je vous donne une idée de l'entraînement que je fais pour mon prochain match au Vélodrome d'hiver. Merci.
Oui, les Noirs américains sont mobilisés hein, autour de Dakar, Djibouti. Joséphine Becker, plus durablement.
Après.
On n'a pas parlé du matériel. Je ne vous ai pas dit ce qu'on a, nous. 3 TNR pour une liaison 128, un ADSL débit max, un contact assistance, des tables, chaises, feutrines, café, eau, livré par les services d'Olivier Hamache, et des badges. Il faut absolument des badges. Le matériel est énorme.
Oui, alors le matériel, il y a d'abord un matériel scientifique qui se veut le plus performant possible. Il s'agit de montrer que l'ethnologie est une science, donc avec du matériel scientifique. Donc il y a parfois du matériel inattendu, comme un électroscope de radioactivité dont on ne sait absolument pas à quoi il va servir. Il y a évidemment des caméras, des appareils photographiques, des appareils d'enregistrement phonographique, des appareils pour mesurer l'anthropométrie, et puis il y a tout le matériel de campement et tout le matériel aussi de toutes les provisions, puisque en fait ils emportent quasiment des provisions pour 2 ans grâce aux sponsors qui donnent une partie de ces conserves, etc.
Alors les boîtes de marrons et le quinquina du bonnet, vous donnez la liste de toutes les entreprises partenaires entre guillemets. Alors la méthode extensive consiste à comparer des sociétés situées dans des milieux climatiques pas trop éloignés sur la ligne Dakar, Bamako, Niamey, Yaoundé, Bangui, Juba et l'Éthiopie. Et la méthode intensive, comme on dit, permet de s'arrêter dans certaines zones. Il y a un coup de cœur de Griol pour le pays Dogon.
Oui, d'ailleurs, il n'est pas le seul à avoir un coup de cœur. Je crois que moi aussi, mais je voulais parler des autres membres de la mission. Je crois que Léris et Scheffner aussi sont fascinés par ce pays. D'abord en raison du relief, hein, ça leur fait penser à un monde chaotique des origines. Et puis par la société qu'il rencontre, une société, c'est la société idéale pour l'époque, hein, pour l'ethnologie de l'époque, qui cherche à travailler sur des sociétés soi-disant préservées, qui n'ont pas été encore corrompues par les changements induits par la colonisation, les nouvelles religions, etc.
Là où c'est préservé, on va prélever. Luc Deheuche, ethnologue plus tardif, interroge un témoin de l'expédition quand elle est arrivée au pays Dogon.
Toi, tu as connu Griol?
Hein? Ouais.
Qu'est-ce que c'était, ce Griol?
Griol était un homme terrible.
Terrible?
Terrible.
Pourquoi?
Parce qu'on ne sait pas ce qu'il faisait, parce que quand il y a des interdits, il ne demandait pas à quelqu'un.
Plus de 50 masques différents vont défiler sous les yeux d'un public rempli d'émotions religieuses. Parmi les spectateurs, des initiés les appellent en déclamant des poèmes séculaires dans une langue qui leur est spéciale. Masque, salut, que Dieu te protège la tête et les jambes. Jambes agiles, bras agiles, viens au tambour. Masque venu des temps anciens, masque aux yeux rouges, sort, frappe, vole.
Je connaissais fort bien le professeur Griol et mon père disait à Griol, vous savez Griol, les masques qui sont là-bas, vous n'y touchez pas. Ces masques qui sont chargés, il ne faut pas y toucher. Laissez-les dans leur grotte, ils les sortent quand il faut. Surtout, il ne faut pas y toucher. Mais moi, je peux vous en faire. Parce qu'avec mes artisans, ils savent, ils ont et les techniques et la tradition pour refaire des masques. Mais ils ne seront pas sacrés, ils ne seront pas sacralisés. Mais ils seront aussi beaux que ceux que vous pouvez trouver. Et puis même, il ajoutait vraiment sous forme de moquerie, je peux même vous faire des trous de verre dedans pour que ça paraisse vieux.
Annick Le Gall se souvient de ce que son père, basé à Bamako, où il fondera la maison des artisans, lui disait. Oui, pourquoi prélever ?
Oh, parce que à l'époque, c'était un des objectifs de la mission Dakar-Djibouti. Hein, c'était une grande entreprise de collecte d'objets et d'informations pour combler les lacunes du musée d'ethnographie. Hein, c'est grâce aux objets rapportés par la mission que le musée d'ethnographie va ouvrir une salle d'Afrique noire après l'exposition Dakar-Djibouti. Et c'était l'idée, de toute façon, un peu dans le prolongement des grandes expéditions naturalistes, de de rassembler toute la culture matérielle d'une société de façon exhaustive, en prenant l'objet comme un témoin de cette société, comme un spécimen. C'est pour ça qu'on est aussi proche des grandes expéditions naturalistes du 19e siècle.
Et ces objets masques étaient considérés comme magnifiques à tous les sens du terme. Mais la collecte, elle pouvait concerner aussi le vocabulaire, la langue, les contes oraux. Tenez, je vous fais lire, parce qu'il est très court, je l'ai trouvé dans votre volume, les cahiers Dakar, Djibouti, ce conte Wolof, la mouche.
Oui, bon, c'est un conte effectivement qui a été d'abord donné par un des informateurs de la mission qui va les accompagner jusqu'en pays Dogon depuis le Sénégal. Donc je lis ce texte. La mouche ne peut pas travailler. Elle ne coupe pas le bois, ne cultive pas, ne garde pas les champs. Elle ne fabrique et n'invente rien. Mais quand les récoltes sont amenées à la maison, la femme prépare le repas de son mari. Alors, la mouche arrive et, se frottant les mains, se pose au milieu du plat.
Voilà conte Wolof. La mère s'occupe des enfants aussi. Alors, ici, on va entendre un cylindre des jeux d'enfants Dogon. Parce qu'il faut imaginer qu'à certains grands moments, tout le dispositif est en place qui permet d'observer les gestes et les mouvements dans la totalité de toute une société. Donc il y a les photographes qui photographient, les cinéastes qui filment.
Exactement. C'est Lutten qui est le cinéaste. Les photographes, c'est essentiellement Griol, Lutten et un peu Léris. Et puis il y a André Scheffner qui enregistre en fait avec son phonographe.
Et il apprendra même le tambour avec les musiciens.
Oui, avec l'un de ses informateurs, Antandou Delo. Mais il va continuer d'ailleurs son apprentissage en 1935, puisque lui aussi va retourner en 1935 en pays Dogon.
Il ne finira jamais sa synthèse sur la musique du pays Dogon.
Non, il a pourtant préparé un mémoire, c'était son objectif, mais pour des raisons peut-être de distance qui se créent entre Griol et lui, finalement, il ne va jamais publier ce mémoire.
L'expédition progresse, une longue incursion au Dahomey, comme on dit à l'époque. Elle préfère l'Afrique française. Il lui arrive quand même de frôler le Nigeria anglais. On va faire une pause avec une musique venue du Nigeria d'aujourd'hui pour faire contrepoint. Et puis parce que nous sommes au Musée de l'Homme qui, aujourd'hui, mais systématiquement, en parallèle, le moderne et le vieux qui, avec le temps, devient neuf. C'est un des fils de Fela, Femi Kuki, qui parle de l'unité de l'Afrique.
Politicians and soldiers making meeting. Our country, them one rebia. Them they make like say, them no, no. Say now them must spoil our country so. As them they tabaru and they go. Now so my people they follow. I'm sorry, sorry.
De l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En direct, en public, c'était Femi Kuti du Musée de l'Homme, comme tout à l'heure Mathieu Vidard. Nous parlons de l'expédition Dakar, Djibouti, qui est la préfiguration du premier Musée de l'Homme en 1931-1933. Après le Nigeria, dont il frôle les administrateurs britanniques, Cameroun, janvier 1932. Et là, les contacts avec le monde colonial ne sont pas aisés parce que la situation est explosive au Cameroun.
Oui, surtout dans le nord Cameroun, hein, c'est un pays sous mandat, hein, contrairement d'ailleurs aux autres pays traversés jusqu'à présent. Et il y a encore des troubles dans le nord, et donc certaines régions du nord sont sous administration militaire encore quand la mission Dakar Djibouti passe, avec des rébellions armées, avec des escarmouches, et ils vont effectivement se trouver dans une situation où ils vont même croiser des prisonniers, des gens qui ont été tués au cours de tentatives d'évasion. Et c'est là aussi, effectivement, que notamment Michel Léris va écrire quelques pages assez féroces sur la colonisation.
Oui, avant qu'on entende Michel Léris, j'aimerais qu'on entende la vérité, je veux dire les actualités pâtées de l'époque.
Le Cameroun, depuis qu'il a été placé sous mandat français, n'a cessé de voir se développer son essor économique. Mais les apports du progrès qui ont fait du Cameroun l'une des contrées les plus riches d'Afrique n'ont pas enlevé à cette terre son caractère et son pittoresque.
La celle qui m'a toujours le plus révolté, c'est l'injustice coloniale. Le mépris qu'ont des gens qui se trouvent tenir le haut du pavé parce qu'ils sont peut-être de meilleurs industriels que d'autres, c'est tout, de meilleurs mécanos, enfin, je dirais presque, ce mépris, enfin, dont ils écrasent des gens au moins aussi civilisés qu'eux, enfin, d'une façon différente, et qui, à beaucoup d'égards, même pourrait leur donner des leçons.
Ça, c'est Léris. Il faut que vous nous parliez de lui. Vous ne reproduisez pas le journal de l'expédition L'Afrique fantôme. Il y a déjà 1400 pages dans votre livre aux éditions des Cahiers, et puis L'Afrique fantôme a connu une fortune posthume extraordinaire. Alors, le principe, ça c'est vraiment très intéressant, c'est de tenir son journal extime et intime.
Oui, en fait, il le tient jour après jour, et il va le publier tel qu'il l'a noté au cours de ces quasiment 2 ans de voyage. C'est un journal de voyage intime qui mêle effectivement ses réflexions personnelles ou ses
j'ai perdu ma pince à épiler, j'ai pas dormi, pollution nocturne,
mais aussi
j'ai rêvé que les membres de l'expédition m'assassinaient, enfin voilà.
Mais aussi en fait le véritable déroulement et ce qu'il pense réellement de la colonisation, alors que ce qu'il pense de la colonisation est totalement occulté dans les publications des membres, dans les publications scientifiques ou même littéraire autre que ce journal, c'est complètement occulté parce que justement ce livre va d'ailleurs être mal reçu par les autres membres de la mission, en particulier par Griol, puisqu'il donne une vision il ne donne pas une vision héroïque de cette mission, mais justement tous les petits tracas et tous les petits aussi les vols d'objets qui sont peu nombreux mais qui existent, et ça va être le début de la brouille, justement la publication de ce journal entre Griol et Léris.
L'Éthiopie joue un rôle très important dans le projet. Elle est maintenant à portée. Marcel Griol y avait déjà beaucoup travaillé en 1928-1929. Il l'avait alors approché, on va entendre un texte de lui, il l'avait alors approché par le Nil.
Le Nil est cette chose qui empêche le caravanier de dormir. Passer un fleuve, surtout s'il roule dans des bas-fonds, c'est se faufiler entre les doigts du diable. Il faut suivre des boursouflures et des creux, progresser lentement sur des corniches, peiner dans les cailloutis des talwegs, et se dire une fois pour toutes que pendant 3 jours pleins, on ne pourra respirer à fond. Alors, rempli d'anxiété et jetant aux échos des falaises les éclats d'une chanson trompeuse, l'homme s'enfonce dans les vallées de tout son poids de chair mortelle, sentant déjà dans ses jambes le clapotement des os.
Enfin, si je lis le parcours tel qu'il a eu lieu avec l'expédition en 1932, ça a été plus pragmatique. Hein. Le bateau, le railway. Bon.
Oui, oui, en fait, ils sont arrivés, de toute façon, ils sont arrivés par l'autre côté de l'Éthiopie, hein, même si Deborah Lifshitz et Gaston Louis Roux, en fait, viennent par Djibouti, eux viennent par le Soudan anglo-égyptien, et en fait, vont dans la région. Alors, ils voulaient aller dans la région du Gojam en raison des troubles. En fait, ils vont aller dans une région proche, dans la ville de Gondar.
S'il vous plaît, vous avez cité de nouveaux venus. Vous en avez cité un au début de l'émission. Là, Gaston Louis Roux, peintre. Et ouais. Deborah Lifshitz. Mais alors, c'est la première femme que nous voyons dans l'expédition.
Exactement. Alors que, en fait, il y a... Pourtant, déjà au musée d'ethnographie, beaucoup de femmes bénévoles. C'est la seule femme qui va participer à la mission. Elle est linguiste, orientaliste. Hein. Elle a des diplômes d'amharique, la langue éthiopienne. Et elle va d'ailleurs ensuite travailler sur les Dogons, alors qu'elle n'y avait pas été en 1900.
Oui, mais la fascination des Dogons, je sais que vous la partagez, mais revenons à l'Éthiopie.
Oui, oui.
Alors, c'est un pays très intéressant, très différent des autres, indépendant, enfin, en principe, parce ouais. que fragile, guetté par l'ombre de l'Italie. Il y a un consul italien, d'ailleurs, qui les circonvient.
Oui, Diloro. Oui, en fait, à cause des troubles qui sont liés, d'ailleurs, à l'Italie en partie, mais aussi à une tentative de coup d'État pour renverser l'empereur Haïlé Sélassié, la mission ne peut pas aller au Gojam. Elle se réfugie dans la ville de Gondar, à l'intérieur du consulat italien de Gondar, qui est un consulat, d'ailleurs, qui n'est pas reconnu l'Éthiopie, mais et c'est à l'intérieur de ce consulat qu'ils vont organiser leurs recherches. Et finalement, à l'intérieur de ce seul pays éthiopien, ils vont se retrouver dans l'extraterritorialité consulaire d'une puissance coloniale.
Et non plus sous la protection de la France. Dites-moi, ils sont... toujours dans la même disposition, ils voient des toiles marouflées dans une église. Et alors, ils ont l'idée de les déposer, de les transporter pour le futur musée de l'homme à Paris et de mettre des copies.
Oui, c'était déjà prévu pas cette église en particulier, mais il était déjà prévu que le peintre de la mission, Gaston Louis Roux, qui faisait partie d'ailleurs des mêmes milieux avant-gardistes que l'Héris, fasse des copies et pour les échanger contre des vieilles peintures. Il se trouve qu'en fait, Griot tombe complètement sous le charme des peintures très anciennes de l'église d'Antonios, et donc veut entièrement ramener ces peintures. Et c'est Gaston Louis Roux et un peintre éthiopien qui vont faire ces copies, avec la collaboration d'ailleurs, à un moment, de Griol et de Lutten.
Vous racontez, je cite une dernière fois votre livre, avec Marianne Lemaire, Éric Joly, Cahiers Dakar, Djibouti, aux éditions des Cahiers Le Retour, en février 1933, l'organisation d'une grande exposition, avec Joséphine Becker, bien sûr, toujours très médiatisée. C'est la préfiguration du Musée de l'Homme qui ouvre en 1937-38. Ce sera un haut lieu de la résistance, mais il sera accusé de vieillir. Il y aura le temps des polémiques et de la grande bifurcation. Une partie du musée de l'homme au musée du Quai Branly, mais l'essentiel des archives papier, je ne parle pas des photos, est toujours, en ce qui concerne l'expédition Dakar-Djibouti, dans ses murs. Et puis Mathieu Vidard, dans un instant, nous dira que c'est le temps de l'apaisement et qu'à certains égards, l'arrachement de certaines collections de cette maison lui ont donné une chance de redéfinir son projet. Je ne redis pas le générique, on le connaît. J'ajoute quand même le nom d'une jeune fille. Vous avez cité Madame Lifshitz. Nous avons Céline Loriou à mettre en avant qui a préparé cette émission.